Bonjour tout le monde. Et je vois plusieurs visages que je ne reconnais pas, pas seulement les 15 amis de Sophia, mais d'autres aussi. Donc vous êtes vraiment le bienvenu. Et à la fin, si vous êtes une habituée ou pas, faites un effort de parler avec les gens qui sont autour de vous pour les accueillir, parce que peut-être tu es nouveau, mais peut-être que tous les gens autour de toi sont nouveaux aussi. Donc ose à parler avec les uns les autres, parce que l'Église est la communauté des gens qui aiment Christ et qui aiment les uns les autres. Donc, vous êtes vraiment le bienvenu. On est en plein milieu d'une série sur le Saint-Esprit. Donc, on a commencé en janvier, on va terminer en mai. Et je pense que vous le savez déjà, mais le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et le premier chant qu'on a chanté, ça parle de « Mon Dieu, mon défenseur, qui combat pour moi ». Et c'est une bonne explication du Saint-Esprit, parce qu'on croit que Dieu, le Saint-Esprit, il vit en nous. Ce n'est pas juste une idée. Ah oui, Dieu, il vit en moi. Non, vraiment, il vit en moi. Et parfois, on n'est pas du tout conscient. Parfois, on est un petit peu conscient. C'est le devoir, c'est le réconfort, c'est le petit voix. Et parfois, c'est le feu. C'est rare, j'ai vécu ça quelquefois, mais c'est rare. Mais c'est génial. Donc, le Saint-Esprit, il vit en nous de plusieurs magnitudes. Donc, voilà le petit résumé du Saint-Esprit. Si tu veux mieux comprendre, mais écoute la première prédication dans la série faite par George il y a quelques semaines. Donc, la titre ce matin, c'est la sensibilité du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas notre sensibilité à l'Esprit-Saint, qui est une bonne chose aussi, mais ce n'est pas le sujet ce matin. L'idée est que le Saint-Esprit, il est sensible. On peut attrister le Saint-Esprit. Et c'est ça dont je veux parler avec vous. Et dans la Bible, il y a plusieurs images pour le Saint-Esprit. On peut parler de le feu, on peut parler de l'eau, de l'huile et la colombe. Et avec toutes ces analogies, on est limité parce que Dieu, il est énorme, Dieu, il est tout-puissant. Et en utilisant le feu, mais ça révèle quelque chose. En utilisant la colombe, ça révèle quelque chose. Mais c'est peu à côté de l'énormité de la plénitude de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous a révélé des images dans la Bible pour nous aider à comprendre qui il est. Donc ce matin, c'est la colombe. Et mon objectif principal, c'est que notre désir pour sa présence, pour le Saint-Esprit, va augmenter. Et que, parce que nous voulons tellement sa présence, que nous serons prêts à changer notre façon de vivre pour avoir sa présence auprès de nous. Alors, j'ai trois parties de la prédication. Ah, j'ai raté une page. Ah, ok, oui, merci. Reviens, Sophia, merci. Oui. Super. Donc, la sensibilité du Saint-Esprit, et juste pour expliquer ça, c'est l'idée que d'une colombe qui vient sur nous et l'idée que la colombe peut s'envoler. Donc, pour expliquer cette idée, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai lue récemment dans un livre par Artie Kendall, parce qu'il est américain, et chapitre 6, la colombe. Donc c'est une vraie histoire, ça parle d'un couple britannique, je ne les connais pas, même si je suis britannique. Et voici l'histoire. Donc ce couple britannique a été envoyé pour être missionnaire en Israël. Ils ont reçu une maison pour vivre près de Jérusalem, et après quelques semaines, ils ont remarqué qu'une colombe était venue s'installer dans l'avant-toit de leur maison. Mais imagine, ils étaient ravis. C'était comme un saut de la présence de Dieu, du Saint-Esprit qui confirme la présence en Israël. Mais ils ont aussi remarqué que la colombe s'envolait chaque fois qu'il claquait une porte ou se disputait. Et voici ce que le couple en dit ensemble. « Que penses-tu de la colombe ?» demanda Sandy à Bernice. « Mais c'est comme un saut du Seigneur sur le fait d'être en Israël, » répondit-elle. Mais as-tu remarqué que chaque fois que nous claquons une porte ou que nous nous mettons à crier, la colombe s'envole? Oui, j'ai tellement peur que la colombe s'envole et ne revienne pas, dit-elle. Soit la colombe s'adapte à nous, soit nous nous adaptons à la colombe, conclut Sandy. Ils savaient tous les deux que la colombe ne s'adapterait pas à eux. Et ils ont décidé, d'un commun accord, de s'adapter à la colombe. Et cette décision a changé leur vie. Rien que pour garder un oiseau chez eux. Donc l'idée est que, est-ce que nous sommes prêts à changer notre façon de vivre pour garder le Saint-Esprit auprès de nous? Donc j'ai trois parties de ces prédications. Nous allons regarder trois attributs du Saint-Esprit qui sont aussi les attributs d'une colombe. Donc la colombe et le Saint-Esprit, il est fidèle, il est aussi saint et sensible. Et ces derniers deux, ils sont très liés parce que quand Dieu, il est saint, il est sensible à notre péché. Donc on peut l'attrister car il est saint, parce qu'on ne peut pas mettre Dieu à côté de notre péché. Il est sensible. Je vais parler un peu plus de ça plus tard. Allez, prions. Seigneur, merci pour ta présence, merci que tu vis en nous. Et je prie que tu vas nous convaincre de nos péchés, que nous serons prêts à changer, à te ressembler, et que tu nous donnes une soif pour toi, une soif pour ta présence, un amour plus grand que jamais pour toi, et que quand nous voulons te mettre au centre de nos vies, que notre désir pour toi va être si grand que nous allons te prioriser avant toutes les autres choses, avant tous nos autres désirs. Amen. Première partie, la fidélité du Saint-Esprit. La colombe, un oiseau fidèle. À l'époque de Jésus, les Juifs pensaient qu'elle s'occupait pour la vie. Et j'ai fait un peu de recherche sur Google, et certains le font. Mais l'important est que pour eux, c'est un oiseau fidèle. Et le Saint-Esprit, il est fidèle aussi. Et peut-être, ça vous fait rappeler, ou peut-être pas, de la baptême de Jésus, raconté dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Et l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe. Et parfois dans les traductions, c'est écrit « il s'arrête » ou « il se pose ». Mais ce n'est pas vraiment le bon sens, c'est plutôt qu'il reste, il demeure avec Jésus. Donc le Saint-Esprit, il est fidèle, comme la colombe est fidèle. Le Saint-Esprit, il demeure avec nous. Mais comment ça va avec l'idée d'une colombe qui peut s'envoler? Parce que c'est ma thèse centrale de la prédication, une colombe qui peut s'envoler. Et maintenant, je viens de dire, mais il est fidèle. Donc, il y a une tension. Et c'est parce qu'il y a une différence entre notre appartenance à Dieu et notre relation avec lui. Et on voit ces deux aspects du Saint-Esprit en Éphésiens 4, verset 30, qui est sur l'écran. Parfait, merci Sophia. Donc, il y a deux parties de cette verset. Première partie, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on peut attrister le Saint-Esprit, on peut lui faire presque peur parce qu'il ne veut pas être à côté de notre péché, il peut s'envoler. Mais la bonne nouvelle, c'est la deuxième partie, par laquelle vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Donc, on est marqué, on est scellé. Oui, il peut s'envoler quand nous l'attristons, mais il ne disparaît pas vraiment. Parce que cette deuxième partie, nous sommes scellés, nous sommes marqués. Il y a plusieurs autres versets dans la Bible qui confirment cette présence qui reste. En Jean 10, verset 28, Jésus dit ceci. « Je donne à mes brebis la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Donc si tu es une brebis de Jésus, mais tu ne périras jamais et personne ne pourra t'arracher de sa main. Donc si tu t'es vraiment repenti de tes péchés et que tu as mis ta confiance en Jésus pour qu'il soit ton sauvé Seigneur, tu es à lui à jamais. Ça ne peut pas changer. Le Saint-Esprit est fidèle. Mais j'aimerais utiliser un exemple de ma vie pour expliquer cette tension entre le Saint-Esprit qui s'envole et le Saint-Esprit qui est fidèle. Donc moi j'ai deux enfants et ils seront toujours mes enfants. Je les aime. En ce moment, j'ai une bonne relation avec eux. Ce matin, Rose était un peu craintieux, mais ça va. ça va, on a une bonne relation. Et je les aimerai pour toujours. Mais ce n'est pas pour autant que notre relation sera toujours bonne. La qualité de notre relation pourrait même se détériorer. La quantité et la qualité de notre relation peut tomber en bas. Et peut-être un jour, ils vont fuir de moi. J'espère que ça ne va jamais arriver. Mais c'est possible. Mais même dans ce cas, ils vont rester mes enfants. Je vais les aimer toujours. Et c'est comme ça avec nous et Dieu. Si tu es un privé de Dieu, si tu as donné ta vie à lui, mais tu ne peux pas être arraché de sa main. Il sera fidèle, le Saint-Esprit est fidèle, même quand nous sommes infidèles. Mais c'est vrai que le péché nous sépare de Dieu, et c'est pour cela que Jésus est venu, parce que on était séparés au début, vous connaissez votre Bible peut-être en Genèse, on est séparés de Dieu par notre péché, et Jésus est venu pour restaurer cette relation. Et par la foi en lui, nous sommes ses fils et ses filles adoptifs. Et Dieu ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Nous sommes devenus les enfants. Mais même si nous sommes scellés et adoptés, le péché peut abîmer, peut détériorer notre relation avec lui. Le Saint-Esprit est saint et sensible. Et le péché peut avoir pour conséquence que nous soyons privés de la plénitude de sa présence. Et j'ai lu pendant les années les versets qui parlent de l'endurcissement du cœur. Et ok, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire dans ma tête, dans mon intelligence. Mais ça, cette idée d'endurcissement, ça a resté théorique pour moi. Jusqu'au moment, il y a pas mal des années maintenant, où j'ai rendu compte que j'ai endurci vraiment mon cœur. Et ça arrive petit à petit. C'est les couches, les barrières que j'ai ajoutées petit à petit, et on se justifie. Donc, je n'ai pas tombé dans un gros péché tout à coup, même pas du tout. Mais c'était les petites barrières, les petits endurcissements de mon cœur qui m'ont éloigné du Saint-Esprit. Et j'étais presque pas conscient de cet éloignement. Donc, Dieu, j'étais toujours sauvé, j'avais toujours le Saint-Esprit en moi. Mais sa voix était affaiblie. Et je ne lui entends pas. Et c'était dans une réunion en Angleterre où je me suis repenti de mes mauvais pensées parce que c'était vraiment une honte. Ce n'était pas les péchés en dehors de moi, c'était vraiment les mauvaises réflexions, les endurcissements de mon cœur. Et dans cette repentance, ce n'était pas le feu soudain, la puissance, non, ce n'était pas comme ça. C'était, j'ai retrouvé mon cœur de chair, ce n'était plus un cœur de pierre. Donc, on peut, en restant en relation avec lui, en avant toujours le Saint-Esprit en nous, on peut tresser le Saint-Esprit, on peut créer une barrière, les plusieurs barrières. Et la solution, c'est le pardon, c'est la repentance. Donc, comme on a eu le mot prophétique en anglais tout à l'heure, on revient à Dieu, on se repentit, on demande le pardon, et ça te libère, ça rétablit la relation proche avec Dieu. C'est la différence entre une relation proche et joyeuse avec Dieu et une relation distante et triste. Et on veut le premier, on veut cette relation joyeuse avec lui. Mais as-tu une telle relation? Veux-tu une telle relation? Que pouvons-nous faire pour ne pas trister le Saint-Esprit et pour vivre dans sa présence? Je vais reprendre un peu plus de ça plus tard. Ce matin, je ne vous connaissais pas tous, peut-être vous êtes tous des chrétiens ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais peut-être si tu n'es pas chrétien, peut-être vous n'avez jamais repenti de vos péchés, de vos mauvaises choses, parce que péché, ça veut dire quoi pour nous? Ouais, c'est un mot jargon. Donc si vous n'avez jamais repenti des mauvaises choses que vous avez faites et vous n'avez jamais invité Jésus à entrer dans votre vie, mais prendre un pas, repentir des mauvaises choses que vous avez faites et demande à lui de venir te sauver, de te libérer, de te pardonner. Il te remplit de son Saint-Esprit. Tu peux avoir cette relation avec lui. Et je ne vais pas faire un appel maintenant ni à la fin, mais si ça te touche, mais viens parler avec quelqu'un. Tu peux parler avec Calvin, ou moi, avec un des deux responsables, Nathan ou David, ou avec quelqu'un avec qui tu es venu ce matin. Mais ne laisse pas cette opportunité de t'échapper. Tu peux connaître Dieu, tu peux être pardonné, tu peux être libéré. Le Saint-Esprit, il est fidèle comme la colombe. Deuxième partie, le Saint-Esprit, il est aussi saint. Dans la Bible, on a les Juifs, ils faisaient les sacrifices, et ils sacrifient certains animaux et pas d'autres. Donc vous savez, les Juifs ne mangent pas le porc, mais ils ne font pas les sacrifices avec les porcs. Mais ils font les sacrifices avec les colombes, parce que les colombes sont considérées pures. Et donc, dans la Bible, Luc chapitre 2, quand le bébé Jésus a été présenté au temple, ses parents, Marie et Joseph, ils ont offert le sacrifice requis par la loi, une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes. Donc pour eux, la colombe est pure et sainte. Et Jésus dit la même chose en Matthieu 10, 16. Il dit ceci: soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Et pur, ça veut dire saint, ça veut dire innocent, pas mélangé avec le mal. Et comme la colombe est sainte, mais le Saint-Esprit, il est saint. C'est évident, c'est dans son nom. On chante plusieurs chants sur la sainteté du Saint-Esprit. Nous sommes conscients de ça. Mais même si nous chantons souvent, on n'a pas beaucoup chanté ce matin, mais on chante souvent les chants sur sa sainteté, est-ce que nous avons vraiment compris la plénitude de sa sainteté? Combien il est saint, consacré, mis à part, et que nous sommes appelés à être saints aussi. Être saint comme il est saint. Et si tu veux vivre la présence du Saint-Esprit, sois saint comme il est saint. C'est un appel, c'est un challenge. Voici ce que l'apôtre Pierre nous dit. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Et puis Pierre, il adresse à une communauté. Donc si vous voulez être saint, oui, c'est en relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais c'est aussi notre relation avec les uns les autres, avec les autres chrétiens. Donc pour être saint, mais ça lui fait vraiment du bien être dans une église locale, dans les groupes de maison, parce que tu peux pas, c'est plus difficile à cacher vos péchés quand tu es avec les autres chrétiens. Donc, fais l'effort, être dans la communauté, être dans le peuple de Dieu. J'ai quelques versets que je veux déclarer sur nous. C'est Ephésiens 4, 22 à 24 et 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Donc, c'est ce que Dieu dit à nous ce matin. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais peut-être ce matin, tu ne sens pas pur, pas saint. Et tu te dis, mais comment je peux être saint? Comment je peux vivre saint? Et d'un côté, c'est ton identité, même si tu ne te sens pas saint. Mais si tu as mis ta confiance en Jésus, tu es saint, il t'a déclaré saint, il t'a déclaré juste, c'est ton identité. Tu es saint, tu es reçu dans ses palais, dans les endroits éternels, c'est ton identité. Mais je sais, parfois on ne se sent pas saint, je sais. Je n'ai pas toujours cette sensation, ah, je suis saint. Non, loin de là. Donc quoi faire? Mais ce que je fais, pas assez souvent, mais reviens chaque jour au pied de Jésus, accroche-toi à la fidélité du Saint-Esprit, repens de tes péchés, de tes mauvaises pensées. Il te restaurera. Mais reviens chaque fois, parce qu'on chute, on tombe, mais on se remet debout et on revient à lui. Et c'est la même chose si tu n'es pas chrétien, mais viens à Christ. Tu ne lui connais pas, mais demande son aide, demande son pardon. Il te restaurera. Dernière et troisième partie, la sensibilité du Saint-Esprit. Donc certaines colombes, ils sont très sensibles, et le Saint-Esprit aussi. Je sais que les colombes, énatiquement, pour être intellectuellement honnête, énatiquement, la colombe et le pigeon, c'est le même. Mais comme chez les humains, on a la vérité, on a les gens qui sont plutôt sympas, autres un peu moins, peu honnêtes, sûrement. Mais c'est comme ça chez la colombe, ce n'est pas un oiseau magique, mais c'est un type d'oiseau qui est plus gentil, plus sensible, plus sauvage que le pigeon. Okay? Et le Saint-Esprit, il est sensible et il peut être attristé par notre péché. Donc je voudrais relire Éphésiens 4, 30. « Ne tristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. » Donc c'est bien possible d'attrister le Saint-Esprit. Et nous voyons ça même dans l'Ancien Testament. Donc David, le roi, celui qui a tué Goliath, le meilleur roi de tous les Juifs, qui a eu le Saint-Esprit auprès de lui. Mais lui, il a chuté sûrement plus fort que Nutus. Il a commis l'adultère, mais pas seulement ça. C'était la femme d'un de ses meilleurs copains. Il a tué ses copains pour voler sa femme. Donc il a vraiment chuté. Et voici ce qu'il dit en Psaume 51. Il prie ceci. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. » Donc David, il a chuté, mais il revient, il est revenu à Dieu. Il demande que le Saint-Esprit reste avec lui. Est-ce que nous créons ça aussi? Si tu es vraiment chrétien, tu as le Saint-Esprit. Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Ça c'est 1 Corinthiens 12, 3. Nous avons été scellés. Nous avons l'empreinte pour le jour de la libération. Nous sommes ses enfants. Personne ne peut nous arracher de sa main. Mais notre relation avec lui peut faiblir. Notre péché peut faire s'envoler sa présence manifeste. Il est saint, il est sensible à notre péché. Et Dieu ne s'impose pas à nous. Il nous parle généralement par un murmure doux et léger. Et on veut entendre cette murmure. On veut enlever les endurcissements de nos cœurs. On ne veut pas l'attrister. On veut qu'il parle à nous. Mais qu'est-ce que peut faire envoler le Saint-Esprit? Pour moi, j'ai l'impression que c'est évident. Je sais quand j'ai péché et que je dois me repentir. Mais autour de cette verset, il y a Éphésiens 4, 30 qui parle d'attrister le Saint-Esprit. Mais ça donne toute une liste des choses avant et après cette verset de ce que peut attrister le Saint-Esprit. Donc je vais lire ces versets. Et pendant que je le fais, je vous invite à demander au Saint-Esprit de te convaincre des choses. Et ça revient à l'amour prophétique qui a été donné par Amy en anglais et qui a été traduit. Que demande le pardon, repentis chaque fois. Donc je vais juste prier, après je vais lire les versets. Père, merci que tu ne nous laisses pas seuls, que tu viens à nous, que tu nous convaincs de nos péchés, que tu nous aimes suffisamment pour porter la discipline, pour que nous puissions être plus saints, plus comme toi. Et je prie que ce matin, que tu nous convainques de nos péchés, que tu nous changes pour être plus comme toi. Amen. Se débarrasser de tous les mensonges. Éphésiens 4, 25. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Versets 26 à 27. Cessez de voler et travaillez honnêtement pour avoir quelque chose à donner à ceux qui sont dans le besoin. Verset 28. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et l'amertume et la manque de pardon, ça peut être vraiment un blocage. Donc, il faut pardonner, il faut être libéré d'un manque de pardon. Nous avons besoin d'être pardonnés, mais nous avons besoin de pardonner les autres. Parce que sinon, ça crée l'amertume, ça crée une chose mauvaise chez nous, ça bloque la relation. Donc, je vous invite vraiment à pardonner les autres. Et plein de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Verset 32. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Chapitre 5, verset 1. Que l'immoralité sexuelle, ça c'est difficile dans notre époque, non? Restez pur. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ne soit même pas mentionnée parmi vous. Verset 3. Que la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. Et j'ai lu une liste des choses qu'il faut éviter, qu'il faut changer, mais s'agit-il simplement d'une autre prédication qui te dit de faire plus d'efforts pour ne pas pécher? J'espère que non. Parce qu'on ne peut pas faire ça avec nos propres forces, on ne peut pas. Je pense comme moi, vous avez tous fait les bons efforts pour ne pas pécher. Mais c'est épuisant. Parce que quand on pense de ne pas pécher, mais tu penses à pécher, tu dis, ah, je dois éviter ça, et tu penses de ça. C'est fatigant. Donc ce que j'ai fait ces derniers mois, je ne sais pas si ma femme ni mes enfants ont remarqué, mais vous pouvez les regarder à toute heure. C'est plus, pour moi, c'était plutôt un changement antérieur parce que la bonté, l'amour de Dieu, ça coule de l'antérieur. Donc, il faut toujours commencer ici. Donc, pour moi, j'ai vu un changement, même s'ils n'ont pas. Je ne sais pas, vous pouvez les demander. Et c'était un changement de motivation. Ce n'était pas une motivation de ne pas pécher, c'était une motivation de motiver par l'amour. Saint-Esprit, je veux que tu restes auprès de moi. Je ne veux pas que tu t'envoles. Je veux ta présence. Je veux entendre ta voix. Et quand c'est motivé par amour, mais je ne suis pas en train de penser du péché, je suis en train de penser du Saint-Esprit, que je veux qu'il est auprès de moi. Et ça fait la différence. Cependant, quand j'ai commencé à préparer cette prédication, ce que j'aurais voulu dire ce matin est que j'ai vécu des moments forts, de puissants, le feu, mais ce n'était pas le cas. Je n'ai pas vécu des moments comme ça dans les derniers mois. Dans le passé, oui, et ça m'a renforcé la foi, mais dans les derniers mois, non. Et peut-être que j'étais naïf parce que j'ai réfléchi beaucoup sur cette idée, parce que je veux les moments forts avec le Saint-Esprit quand il est tellement présent que tu n'as presque plus besoin de la foi, parce qu'il est tellement réel, il est tellement présent. Mais je pense, si j'étais toujours dans cet état, mais je ne peux rien faire parce que je suis tellement bouleversé. Donc, pour vivre la vie chrétienne, pour marcher, pour témoigner auprès de tes amis, tu as besoin de le Saint-Esprit, il t'aide, mais c'est plutôt la colombe et pas le feu, 100% du temps. Donc, ce que j'ai vécu les derniers mois, oui, j'avais plus envie de lire la Bible, j'avais plus envie de prier. Et je pense que j'ai écouté plus la voix du Saint-Esprit dans ma journée hebdomadaire avec ma famille. J'espère que j'étais un peu plus gentil avec mes enfants et ma femme, un peu plus patience. Donc en conclusion, nous avons comparé le Saint-Esprit à un colombe qui vit en nous. Nous avons vu qu'il est fidèle, qu'il n'use nulle marque de son sceau. Est-ce que le Saint-Esprit vit en toi? Si ce n'est pas le cas, vas-tu l'inviter aujourd'hui? Nous savons que le Saint-Esprit est saint et qu'il nous appelle à être saints. Par l'amour de Jésus, sur la croix, tu as été rendu saint si tu t'es repenti de ta méchanceté et si tu as mis ta foi en lui. Si vous n'avez jamais demandé pardon à Dieu pour les mauvaises choses que vous avez faites, vous pouvez le faire en cet instant et lui demander d'effacer votre culpabilité et votre honte et de vous rendre saint. Et même si la plupart de nous sont déjà sauvés, déjà pardonnés, mais nous continuons à faire parfois de mauvaises choses. À quoi le Saint-Esprit t'appelle-t-il aujourd'hui à renoncer? Sur quel changement t'en appelle-t-il? Et enfin, nous avons vu que le Saint-Esprit est sensible et on peut l'attrister. On ne veut pas attrister le Saint-Esprit, on veut qu'il reste auprès de nous. Donc choisirais-tu avec moi aujourd'hui de tout faire pour qu'il se sente le bienvenu, qu'il demeure avec nous? Je vous invite à vous lever et j'invite les musiciens à revenir. Ils vont jouer doucement, probablement feu de fondeur. Et je vais juste prier pour vous, mais pendant ce moment de réflexion, juste demande encore au Saint-Esprit de te convaincre des choses, de recevoir son amour, son pardon. Et peut-être qu'il veut que tu changes des petites choses aussi. Donc sois ouvert à ça. Donc je vais prier pour vous, et après juste reste dans un moment de prière et de réflexion. Seigneur, nous aimons de plus en plus ton Saint-Esprit. Nous demandons que tu agis auprès de nous, que tu travailles dans nos cœurs, que tu augmentes notre amour pour toi et que nous serons prêts à changer, pas parce que nous voulons juste éviter le péché, mais que nous t'aimons plus, que nous soyons motivés par l'amour, que nous serons consumés par l'amour de toi, Seigneur. Travaille en nous et que nous changeons. Amen.